France Culture, il est 15h. Culture Société, Antoine Garapon.
Bonjour, et comme chaque jeudi, c'est Esprit de Justice. Le droit français n'admet pas la pratique de la gestation pour autrui et l'interdit sur son sol. Mais quid lorsque des citoyens français contractent avec une mère à l'étranger dans un pays où cette pratique est permise ? La Cour européenne des droits de l'homme a décidé il y a un an que le refus de transcrire la paternité du père biologique en l'espèce privait l'enfant de son droit à la vie privée. Alors, les autorités françaises doivent-elles transcrire l'état civil acquis à l'étranger, mais contraire à l'ordre public français ? Est-ce que cela ne reviendrait pas à une reconnaissance de facto d'une pratique que nous considérons comme illégale ? D'un autre côté, refuser de donner un statut à ses enfants leur fait supporter le poids d'une fraude dont ils ne sont en rien responsables. Ce qui n'est pas sans évoquer la situation autrefois des enfants dits adultérins, à l'égard desquels une double filiation n'était pas possible. Comment se sortir de ce dilemme ? C'est la question qui a été soumise il y a quelques jours à la Cour de cassation, qui va rendre son avis sous peu et que nous allons tenter d'éclairer aujourd'hui. Mais avant d'entamer ce débat, place à l'agenda judiciaire qui est tenu cette semaine par Laure de Vulpian. Bonjour Laure.
Bonjour Antoine.
Alors, au chapitre institutionnel, vous célébrez un anniversaire, celui de la loi Guesso, qui a 25 ans, un quart de siècle dans quelques jours. Et je rappelle que cette loi de juillet 90 réprime tout acte raciste, antisémite ou xénophobe.
Oui, à l'époque, ce texte venait actualiser et enrichir la loi Pleven de 1972, qui déjà interdisait toute discrimination. Discrimination fondée sur l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. L'innovation qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cet article qui a créé le délit de contestation de l'existence des crimes contre l'humanité. Un délit de presse taillé sur mesure pour clouer le bec des Robert Forisson et autres Jean-Marie Le Pen qui, dans les années 80, faisaient profession de négationnisme de la Shoah et, singulièrement, de l'existence des chambres à gaz. On se souvient tous des propos de l'ancien président du FN en 1987 sur, je cite, « le point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ». Eh bien, 25 ans plus tard, une question surgit. Ce délit doit-il être redéfini pour prendre en compte le génocide des Tutsis du Rwanda, qui est survenu 4 ans après le vote de la loi Guesso ? Le problème est si réel qu'il a suscité une QPC, question prioritaire de constitutionnalité. En effet, des Français d'origine Tutsi s'estiment atteints dans leur dignité de victime par la diffusion fin 2013 sur Canal+, d'un sketch à prétention humoristique. L'association Communauté Rwandaise de France a porté plainte en justice, mais elle a été considérée comme irrecevable et elle se trouve donc privée d'accès à un juge. Pourquoi ? Parce que la loi Guesso est réservée, entre guillemets, aux seules victimes de la Shoah. Donc, la Cour de cassation va-t-elle transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel ? On le saura mercredi prochain, 8 juillet. Et il s'agit en fait de dire si cette loi Guesso, appliquée de manière stricte, induit une rupture d'égalité entre citoyens, selon qu'ils sont ou pas d'origine Tutsi. À la clé, donc peut-être, une extension de la loi Guesso à tous les génocides et crimes contre l'humanité reconnus par le système judiciaire français.
Et maintenant, vous allez nous parler non pas d'un procès, mais d'une instruction, ou plus exactement d'un juge d'instruction, et particulièrement emblématique, il s'agit de Marc Trévidic.
Mais alors emblématique, d'abord de la défense du juge d'instruction avec un grand J, puisque à l'époque, Marc Trévidic, qui présidait l'AFMI, l'Association française des magistrats instructeurs, s'était battu bec et ongle contre le projet du président Sarkozy de supprimer les juges d'instruction. Emblématique aussi, et surtout peut-être, de l'antiterrorisme, et ce, depuis 10 ans. 10 ans, c'est ce qui l'oblige effectivement, selon la règle, à quitter ses fonctions d'ici 2 mois. Alors, certains des dossiers de ce magistrat sont parmi les plus sensibles, politiquement et diplomatiquement. Rwanda, c'est l'attentat du 6 avril 1994. Tibéirine, l'assassinat en Algérie de 7 moines trappistes en 1996. Et Karachi, la mort de 11 ouvriers de la DCN dans un attentat au Pakistan, ceci en lien avec un contrat d'armement, c'était en 2002. Des dossiers tous hérités du juge Bruguière que Marc Trévidic rend, dit-il, mieux ficelé qu'à son arrivée. Une petite pique. Ces jours-ci, le magistrat reçoit les parties civiles pour une sorte d'adieu en forme de constat d'impuissance. Pendant toutes ces années, il s'est heurté au secret défense, à la raison d'État et aux pressions politiques et hiérarchiques. il en avait assez et il l'a dit. Marc Trévidic rejoindra sa nouvelle affectation le 1er septembre au poste de premier vice-président du TGI de Lille, chargé de l'instruction. Son successeur s'appelle Jean-Marc Herbault et justement, il vient de Lille.
Et au chapitre étranger, vous parlez de cette rupture annoncée mais qui n'est pas encore consommée entre l'Afrique et la Cour pénale internationale.
Oui, 34 pays africains ont ratifié le traité de Rome et la plupart d'entre eux accusent la CPI de cibler injustement leur continent. Il est vrai que 8 pays sont directement visés par la Cour, Mali, Ouganda, Soudan, Côte d'Ivoire, Kenya, République centrafricaine, Libye et République démocratique du Congo. Alors le prétexte idéal à une rupture effective, c'est l'incident de la mi-juin en Afrique du Sud, quand Pretoria a refusé d'arrêter le président du Soudan, Omar el-Béchir, qui se trouvait sur son sol pour un sommet de l'Union africaine. La justice avait pourtant donné son accord pour une arrestation de Béchir en vertu du mandat d'arrêt international délivré en 2009 par la CPI. Mais le gouvernement sud-africain a court-circuité sa propre justice en organisant, semble-t-il, l'exfiltration du chef de l'État soudanais. Un sacré pied de nez à la Cour qui a réjoui nombre d'Africains. Je rappelle que le président Béchir est soupçonné de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au Darfour depuis 2003. Bilan 300 000 morts et 2 millions de déplacés. Pour faire bonne figure après cet incident, Pretoria a promis d'accélérer la réforme de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui se chargerait donc de juger les crimes les plus graves en lieu et place de la CPI. Mais on sait déjà que cette Cour africaine n'aura pas les coudées franches pour juger qui elle veut. En effet, en septembre dernier, les dirigeants africains se sont octroyés discrètement et à l'unanimité une immunité totale pendant l'exercice de leur mandat, en cas de poursuite lancée par cette juridiction africaine. J'avais évoqué ce sujet dans le tout premier agenda d'Esprit de justice, le 4 septembre dernier. Aujourd'hui donc, la boucle est bouclée. Au revoir Antoine.
Eh bien oui, la boucle est bouclée. Au revoir Laure. Et puisque c'est notre dernière émission d'Esprit de justice, merci pour votre collaboration.
France Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Comment peut-on prétendre défendre les enfants en voulant qu'ils soient traités comme des fantômes de la République privés de leurs droits ? C'est quand même insupportable.
La GPA, la gestation pour autrui, la circulaire Taubira, a en quelque sorte gagné la partie aujourd'hui. Le Conseil d'État a rejeté une série de recours contre le texte qui vise à faciliter l'obtention de certificats de nationalité pour les enfants de pères français nés de mères porteuses à l'étranger, puisqu'en France c'est interdit. Des enfants qu'on a parfois qualifiés de fantômes, puisque n'existant pas pour l'administration française.
Priver un enfant d'une filiation qu'il a légalement et légitimement en droit, c'est une atteinte démesurée à ses droits.
La bataille juridique se poursuit autour des enfants nés par GPA à l'étranger. Des enfants dont les parents demandent depuis un bon moment déjà l'inscription à l'état civil en France, ce qui pose problème aux autorités françaises, puisque la gestation pour autrui est interdite en France. En juin dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs condamné la France pour deux affaires de refus de transcription à l'état civil.
Moi, je comprends que les gens aient un problème au niveau moral. Moi, c'est un argument que je peux comprendre. Je suis contre les arguments juridiques, tout ça, parce qu'effectivement, le droit est très très clair. Dans notre cas, nous n'avons pas loué de ventre. Notre parcours est purement altruiste. Je sais que c'est quelque chose de difficile à entendre pour les Français, mais il existe des femmes qui n'ont pas l'esprit de maternage, qui aiment être enceintes et qui sont capables de faire un don de soi.
On estime qu'environ 2000 enfants nés par GPA à l'étranger vivent actuellement en France.
Alors, la gestation pour autrui, la GPA, va-t-elle rentrer par la fenêtre alors que le droit français lui ferme la porte ? Tel sera notre débat d'aujourd'hui, qui réunit trois professeurs de droit, une fois n'est pas coutume. J'ai en effet estimé que, vu l'intensité du débat en ce moment, il fallait donner la parole au droit, qui certes n'a pas toutes les solutions, mais qui permet néanmoins de bien raisonner. C'est pour ça que j'ai le plaisir de recevoir Muriel Fabre-Magnan, qui est professeur de droit à l'Université de Paris 1, qui est l'auteur d'un livre intitulé « La gestation pour autrui, fiction et réalité », publié aux éditions Fayard en 2013. Anne-Marie Leroyer, également professeur de droit, et qui était rapporteur de la mission « Filiation Origine Parentalité, qui était dirigé par Irène Théré et qui portait entre autres sur la gestation pour autrui. Et puis Étienne Pateau, qui lui est spécialiste de droit international privé, qui est l'auteur d'un livre sur la nationalité, d'ailleurs qui a été reçu récemment dans cette émission. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors, je voudrais commencer par bien poser le problème. C'est souvent comme ça en droit. C'est quand on a bien posé le problème, on a plus de chances de trouver la solution si on balance, passez-moi l'expression, des éléments du débat. Alors, Anne-Marie Leroyer, est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs quelle est la question qui se pose aujourd'hui, qui va être tranchée dans quelques jours par la Cour de cassation et qui fait débat ?
Oui, devant la Cour de cassation, donc il y a deux pourvois contre des arrêts de la Cour d'appel de Rennes, dont l'un a été rendu avant la décision de la Cour européenne des droits de l'homme et l'autre après. Et dans ces deux décisions, les faits sont quasiment identiques puisqu'il s'agissait de couples hétérosexuels ayant eu recours à une gestation pour autrui en Russie, dans lequel le nom du père biologique est mentionné et le nom de la mère porteuse est mentionné dans les actes de naissance des enfants établis en Russie à chaque fois. Et dans un des premiers arrêts de la Cour d'appel de Rennes, la Cour d'appel est dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation, c'est-à-dire qui interdit la transcription au motif de la fraude, indépendamment de toute référence à l'intérêt des enfants. Et dans le deuxième arrêt de la Cour d'appel de Rennes, qui est postérieur à celui de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour d'appel, là, va tenir compte de la solution de la Cour européenne des droits de l'homme et admettre la transcription parce qu'elle n'y voit aucune contrariété au droit français, étant donné que les éléments qui sont mentionnés dans l'acte de naissance étranger sont conformes à la vérité biologique. Le père et le père biologique, c'est le père mentionné dans l'acte de naissance. Et la mère porteuse est bien effectivement la mère biologique de l'enfant. Et donc, on va considérer en l'occurrence qu'il n'y a pas de contrariété, une disposition du Code civil qui est l'article 47, qui est en l'occurrence celui qui est visé pour admettre que l'acte étranger fasse foi sur le territoire national.
Alors, qu'est-ce qu'a dit ce fameux arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a fait pivoter, Muriel Favre-Magnan, expliquez-nous ça. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Cour européenne des droits de l'homme ? Parce que c'est plus compliqué qu'on ne le pense, qu'on ne le présente d'habitude.
Oui, alors il y a deux points à distinguer clairement dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'il y avait un recours des parents, donc les époux Menson et Labassé, en leur nom propre, sur le fondement de l'atteinte au droit à leur vie familiale, et puis un aspect d'un recours au nom de l'enfant pour, vous l'avez très bien mentionné tout à l'heure, le droit à l'identité de l'enfant. Or, sur le premier point, la Cour européenne des droits de l'homme déboute très clairement les époux en disant que le droit au respect d'une vie familiale normale n'a pas été violé parce que la situation, c'est-à-dire le refus de la transcription, ne les empêche pas, ils ne démontrent pas qu'ils ont des obstacles tels qu'ils ne peuvent pas mener une vie familiale normale en France. En revanche, en ce qui concerne les enfants, la France a effectivement été condamnée pour violation de l'article 8, droit au respect de la vie privée, dont fait partie, dit la Cour, le droit à l'identité de l'enfant. Donc la France est condamnée pour ne pas donner un statut qui accorde ce droit à l'identité de l'enfant. Ça, c'est ce que les juristes appellent le dispositif, c'est-à-dire la solution de l'arrêt. Et c'est cette solution qui s'impose à la France. En revanche, il y a toute une série de motivations derrière de la Cour européenne des droits de l'homme. Et contrairement à ce qu'on a entendu ou pu lire, ça n'est pas une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pas comme une loi dont tous les articles seraient directement applicables en France. Donc il y a d'abord une marge d'interprétation et une marge de libre choix de la France pour mettre en œuvre et pour respecter la condamnation de la France.
Ce que vous dites est important parce que la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas reconnu le droit des parents. Il n'y a pas de droit des parents à avoir une
Exactement,
vie familiale.
C'est très important. Non, si, il y a un droit des parents à avoir une vie familiale, mais ce droit est respecté et l'absence de transcription ne les empêche nullement d'avoir une vie normale, quotidienne. Les entraves qu'ils ont ne portent pas atteinte à ce droit à une vie familiale normale. Donc c'est effectivement très important.
C'est ça. Et puis il y avait un autre élément que j'ai trouvé très important et que je ne comprends pas, je continue de ne pas comprendre, c'est que la France avait refusé de transcrire, y compris l'état civil à l'égard du père biologique. dans l'affaire de la CEDH. Alors, est-ce que là n'avait pas un peu trop fait Est-ce qu'on n'avait pas été trop radical dans l'autre sens, Anne-Marie Leroyer?
Si, bien entendu. La Cour de cassation, d'ailleurs, en 2014, a peut-être mis le feu aux poudres lorsqu'elle a poser cette solution de principe, parce que autant on pouvait légitimement s'interroger sur la question de la transcription elle-même, c'est-à-dire de la reconnaissance de la validité de l'acte étranger et de sa publicité en France, autant la question de l'établissement sur le territoire français par le père biologique de sa filiation, hein, là il y a deux, on voit bien deux chemins différents, jusqu'ici n'avait soulevé aucune difficulté. Et d'ailleurs, du point de vue de l'interprétation du droit interne, le ministère public ne peut pas contester une reconnaissance de paternité qui est fondée sur la vérité biologique. Et là, il y a une interprétation tout à fait particulière qui a été faite de la loi française en adoptant cette solution.
Alors, il y a eu un autre élément auquel qu'il faut expliquer tout de suite, parce que là aussi, il a fait l'objet de malentendus, c'est la fameuse circulaire Taubira. La circulaire Taubira, hein, peut-être vous allez dire un mot, Étienne Pacteau.
Oui, alors, la circulaire Taubira, je pense, montre bien le cercle vicieux et une certaine forme d'hypocrisie qui est ici en cause. Parce qu'en fait, le débat repose sur des questions d'état civil. Mais on demande, je crois, beaucoup trop à l'état civil, parce que l'état civil, ça reste une technique, une institution.
C'est une preuve, en fait. C'est une
institution
servante.
Non, mais c'est pas tellement que c'est une preuve ou un droit. C'est qu'en réalité, la vraie question, c'est celle de la reconnaissance du lien de filiation lui-même. Et la circulaire Taubira reposait sur l'idée que c'est pas parce qu'on refuse de transcrire à l'état civil que le lien de filiation n'existe pas. Et donc disait, à juste titre, je pense, la ministre, elle disait, mais du coup, le lien de filiation existant étant établi, en tout cas à l'égard du père, du coup, ses enfants sont des Français par filiation. Ce qui est exact, mais ce qui, du coup, est quand même un peu ambigu, dans la mesure où, en réalité, ce qui est derrière le refus de transcription, c'est le refus de reconnaissance de la réalité du lien de filiation.
Bien sûr.
Et de ce fait, je crois qu'il y a ici une ambiguïté qu'il est important de lever, parce que soit on refuse de reconnaître, et à ce moment-là, ces enfants n'ont pas la nationalité française, soit on reconnaît effectivement le lien de filiation, et ces enfants ont, dans ce cas-là, la nationalité française.
Et du coup, Muriel Favre-Magnan, en reconnaissant le lien de filiation, on reconnaît indirectement une pratique que nous réprouvons.
Oui, sauf que l'état, je précise quand même ce qui vient d'être dit, l'état du droit positif à l'époque de la circulaire, c'était quand même que le lien de filiation avec le père n'était pas reconnu. Et à nouveau, l'article 47 du Code civil qui permet de donner foi aux actes d'état civil étrangers, on a toujours considéré que c'était sous réserve du respect de l'ordre public français. Or, précisément, le droit français considérant que la gestation pour autrui est un acte gravissime, on en bloque les effets juridiques
expliquer à nos auditeurs ce que c'est que l'ordre public français? Parce que pour eux, l'ordre public, je pense, c'est des choses beaucoup plus concrètes. Et il y a un ordre public qui est aussi un ordre moral, en quelque sorte.
Oui, enfin, c'est un ordre juridique. Le droit, très souvent, fort heureusement, est conforme à une certaine vision de la morale sociale. Mais ce sont des critères juridiques. L'ordre public, c'est lorsque la France considère que, même si une pratique s'est valablement établie à l'étranger, je prends l'exemple de la répudiation, par exemple,
ou de la polygamie,
l'État français, la France, peut à un moment dire, même si ça s'est valablement constitué à l'étranger, nous, dans nos valeurs nationales, et c'est du droit, c'est l'identité constitutionnelle de la France, c'est les valeurs fondamentales de la France, on considère qu'elles sont heurtées, si bien que le droit français refuse de reconnaître les conséquences sur son territoire.
Et alors, pour compliquer un peu les choses, Étienne Pateau, c'est qu'en fait, parfois, on réprouve une pratique, mais en même temps, on accepte ses conséquences sur notre territoire.
C'est-à-dire qu'il y a forcément ici une ambiguïté dans la mesure où le droit international privé vise à faire cohabiter et coexister des droits qui reposent sur des fondements, des valeurs et des règles juridiques qui sont très différentes. Et là, je crois que le petit point désaccord que nous avons avec Muriel Favre-Magnan est très significatif de cette difficulté, parce que dans l'un de ses nombreux arrêts, la Cour de cassation avait dit « on refuse de transcrire ». Mais ces enfants ont néanmoins une existence légale dans la mesure où ils ont bien un lien de filiation qui est établi à l'étranger. Et c'est une incise dans l'arrêt de la Cour de cassation qui avait beaucoup, beaucoup intrigué, parce que si on considère que ce lien de filiation est établi à l'étranger aux États-Unis, ce qui était incontestable dans l'affaire en cause, il n'en reste pas moins que, du coup, la question qui se pose du point de vue de l'ordre juridique français, c'est quel effet on donne sur le territoire français à ce lien de filiation.
C'est ça.
Reconnaître à ses enfants la nationalité, c'est d'une façon ou d'une autre, on ne peut pas échapper à cette idée, que c'est reconnaître d'une certaine façon l'existence de ce lien de filiation.
Anne-Marie Leroyer.
On voit ici qu'on navigue sur deux terrains différents quant à l'établissement de la filiation de ses enfants en France. Il y a deux chemins possibles, comme je le mentionnais tout à l'heure, et c'est important qu'on comprenne bien ces deux aspects possibles. Le premier, c'est de reconnaître la validité de l'acte de naissance étranger. Et là, on est sous la formule de l'article 47, la question de la fraude à la loi, comme vous le rappeliez, Muriel, tout à l'heure. Et puis le deuxième, c'est de savoir si on peut établir cette filiation sur le territoire français avec le mode de preuve du droit français. Et notamment, est-ce que le père biologique de l'enfant peut reconnaître cet enfant en France ? Et là où la Cour de cassation avait été très loin, c'est que non seulement elle avait dit l'acte de naissance étranger ne peut pas être transcrit parce qu'il est établi en fraude à la loi, mais en plus, la reconnaissance paternelle faite sur le territoire national est nulle parce que faite en fraude à la loi. Et c'est sur ce deuxième aspect qu'il y a une contestation possible, très évidente au niveau du droit, parce que la loi ne donne pas au ministère public, quoi qu'on en dise, la possibilité de contester une reconnaissance qui est conforme à la vérité biologique, fût-elle faite en fraude à la loi française. Et là, on a toute une interprétation, une discussion entre les juristes sur ce terrain-là, parce que l'interprétation qui est faite de la loi, c'est il faut prouver l'inexactitude de la filiation.
Les intéressés le reconnaissent eux-mêmes, d'ailleurs, en disant, ils sentent bien qu'on ne peut pas les empêcher de reconnaître, on va entendre le témoignage tout à l'heure, de Lucas Lemenec, on ne peut pas l'empêcher de reconnaître un enfant. Vous vouliez ajouter un mot, Muriel
Fabre-Magnon ? Non, parce qu'à nouveau, la question, c'est simplement de savoir si on prend au sérieux l'interdiction de la gestation pour autrui en France et donc on en paralyse les effets quand c'est acquis frauduleusement à l'étranger, ou est-ce qu'on va admettre de cautionner en disant aux personnes c'est illégal et prohibé et très grave en France, mais si vous réussissez que vous avez les moyens d'aller à l'étranger, revenez et on valide la situation exactement comme si c'était légal. Même les non-juristes peuvent comprendre que c'en est fini de l'interdiction et de la prohibition si on raisonne comme ça.
Alors, on n'est pas du tout d'accord.
Alors, vous dites tout de suite, vous n'êtes pas d'accord parce que après, comme ça, et on écoutera.
Parce que ce sont deux choses très différentes, malgré tout. C'est-à-dire que là, on est dans une logique qui serait une logique qu'on entend bien en termes de philosophie morale, qu'on appelle la logique de la pente fatale. Si on admet l'établissement de la filiation, alors un jour, on va légaliser la gestation pour autrui sur le territoire national.
Ça n'est pas du tout ce que j'ai dit. D'un point de vue
alors, technique. Alors, terminé Anne-Marie Leroyer, ensuite, donnons la parole à Muriel Farman.
C'est à quoi on peut répondre plusieurs choses. La première, c'est que la sanction du comportement des parents, si tant est qu'il soit frauduleux, et il l'est en l'occurrence, au regard du droit français, n'a pas à peser sur les enfants. Et la deuxième, c'est que dans les pays qui ont autorisé la reconnaissance de la filiation des enfants conçus selon ce mode de conception, on n'a pas vu une extension, une explosion des recours à la gestation pour autrui, non plus qu'une légalisation sur leur territoire national de la gestation pour autrui.
Alors, Muriel Farmagnon et ensuite...
Oui, en deux mots quand même sur la comparaison avec l'adultère, juste celle-là, puisque vous l'avez rappelé vous-même, ça n'a rien à voir. On compare l'adultère, si vous reconnaissez les mêmes droits à l'enfant adultérin qu'aux autres enfants, ça ne va pas encourager les adultères. Donc il n'y a pas du tout ce risque d'appel d'air.
Oui.
Alors qu'à nouveau...
Mais alors, où est le risque alors?
La gestation pour autrui, en revanche, si vous accordez à l'enfant exactement le même statut et en réalité aux parents le même statut exactement que si c'était légal, ça va faire un appel d'air puisque l'objet même de la gestation pour autrui, c'est l'acquisition de la filiation, ce qui n'était pas le cas pour l'adultère.
Sur le deuxième argument concernant l'intérêt de l'enfant, qu'est-ce que vous répondez, Muriel Favre-Magnan, quand on dit, oui, pourquoi faire supporter à l'enfant la fraude, parlons de fraude, parce que c'est commise les parents.
Prenez par exemple l'inceste. Le droit français ne reconnaît pas si un père a des relations sexuelles avec sa fille et qu'il en résulte un enfant. Vous savez bien qu'on ne peut pas établir le double lien de filiation vis-à-vis du père et de la fille. Là aussi, on fait payer à l'enfant Cette formule, c'est une formule qui est trop facile parce que, si vous voulez, le droit, à un moment, doit marquer les interdits. Et l'inceste, ça voudrait dire, avec ce raisonnement, que là aussi, il ne faut pas faire payer à l'enfant. Donc, il faudrait reconnaître le double lien de filiation avec le père et sa fille. Je ne crois pas qu'on puisse raisonnablement dire ça. Mais là aussi, en matière d'inceste, on pourrait faire cette formule qu'on fait payer à l'enfant. Mais à nouveau, on ne fait pas payer à l'enfant. Parce que la vraie question, je termine là, ça sera d'apprécier concrètement l'intérêt de l'enfant.
Étienne Patou.
Oui, je voudrais revenir un instant sur cette idée qui est quand même au cœur du débat, qui est l'idée de la fraude. Parce que tout le monde a l'air de considérer souvent dans le débat sur ces affaires, Ménesson, Labassé et toutes les autres, qu'il y a évidemment une fraude des parents. En réalité, c'est assez compliqué, la fraude, l'existence, la réalité de la fraude. Parce que, si je prends un exemple très extrême, une famille, par exemple, américaine, qui aurait eu recours à la gestation pour autrui, et puis qui viendrait quelque temps après s'installer en France pour des raisons professionnelles, par exemple, personne ne s'opposerait à la reconnaissance du lien de filiation. Tout le monde trouverait ça parfaitement naturel que l'ordre juridique américain se soit exprimé avec ses propres valeurs.
Et qu'il ait emmené avec eux, en quelque sorte.
Ce qui nous pose problème, nous, c'est que ce sont des gens dont on pense qu'ils sont... l'ordre juridique français aurait une vocation naturelle à s'appliquer, qu'ils sont allés obtenir à l'étranger ce qu'ils n'auraient pas pu obtenir en France. Mais après tout, dans un monde qui est quand même marqué par la mobilité, une mobilité qui est très, très fortement encouragée, la vocation à s'appliquer de l'ordre juridique français doit être quand même un peu questionnée, parce qu'elle n'est pas si évidente que cela. Parce qu'après tout, des époux, certes de nationalité française, mais qui, par exemple, auraient résidé très longtemps dans un pays dans lequel la gestation pour autrui serait autorisée, n'auraient-ils pas créé un lien suffisant avec leur territoire d'accueil pour justifier qu'on reconnaisse la reconnaissance du lien de filiation. Je crois que l'idée même d'une fraude, en soi, nécessite d'être un peu affinée en essayant de réfléchir à quels critères précisément sur lesquels on pourrait se baser sur la fraude.
Il y a l'idée de fraude, mais j'entends derrière ce que dit Muriel Favre-Magnan, l'idée qui est très commun d'ailleurs dans tout le droit aujourd'hui, une sorte de moins-disant normatif. C'est-à-dire que c'est un alignement sur le plus libéral, parce qu'on peut circuler, donc comme on peut avoir un test de paternité pour 50 euros de l'autre côté de la... Je parle d'une certaine époque en Allemagne, ben pourquoi l'interdire en France, vu qu'on peut avoir ce test? Alors, qu'est-ce que vous répondez à l'argument cette circulation, cette mobilité des hommes fait qu'elle affaiblit considérablement la capacité normative d'un État pour faire respecter sur son territoire un certain ordre public? Étienne Patou.
Ça, c'est un vrai problème qui est beaucoup plus large que la gestation pour autrui.
Oui, bien sûr, que la GPA illustre cette difficulté. C'est une difficulté générale.
La GPA illustre en effet cette difficulté. C'est vrai que lorsqu'on pose uniquement la question en termes de reconnaissance d'une situation, on est face à deux mauvaises solutions, puisque soit on viole la loi française en disant mais ses parents auraient dû être soumis à la loi française, soit on refuse, soit on laisse les enfants à peu près démunis en refusant de reconnaître le lien de filiation. Je pense qu'on pourrait essayer de reprendre le problème un tout petit peu autrement en disant mais le problème est un peu plus vaste, en essayant de réfléchir aux conditions dans lesquelles on vise la création des liens de filiation par la gestation. Pour autrui, et ça, il y a un point qui est très, très important aujourd'hui, c'est le développement dans les lois des pays qui acceptent la gestation pour autrui d'éléments de rattachement, des conditions de résidence, des conditions de nationalité, et parfois même, c'est le cas de la loi indienne, subordonner l'accès à la gestation pour autrui au fait que cette gestation sera reconnue dans le pays de la nationalité des parents. Je pense que c'est une solution tout à fait intéressante.
Et qui passe par les États et par une structuration de la mondialisation morale.
Une convention internationale serait le texte naturel sur le sujet.
Deux mots, Muriel Favre-Magnan.
Deux mots pour préciser, parce que je ne voudrais pas que les auditeurs croient que le droit ne propose que deux solutions, c'est-à-dire la transcription, et donc l'enfant a tous les droits issus de la filiation comme si tout était légal, ou rien du tout. Certains soutiennent peut-être qu'il faut rien du tout. Pour ma part, je soutiens que, bien entendu, d'abord, il faut respecter la condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, il faut donner à l'enfant les principaux éléments de son identité, c'est-à-dire...
Mais pas tous.
On a été condamné pour ne pas donner les principaux éléments de l'identité. Or, maintenant, les notaires doivent reconnaître les droits de succession comme s'il y avait un lien de filiation normal. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ils ont la nationalité française, ils ont un nom, ils ont un domicile. Donc la seule chose qu'ils n'ont pas, c'est le lien de filiation. Mais c'est le dernier point. Le reste donne à l'enfant un statut qui désormais respecte son identité.
Alors, Anne-Marie Leroyer, juste...
S'il s'agit d'une question d'identité, et on a été condamné sur cette question, sur le fait que la filiation est un élément essentiel de l'identité. Après, on ne peut pas dire, on ne reconnaît pas la filiation, mais on reconnaît les effets de la filiation. Juridiquement, là, on n'est pas du tout dans le sens. Et d'autre part, comme le disait très justement Muriel tout à l'heure, eh bien, nous, ce n'est pas une question de vie de l'enfant, vie familiale de l'enfant sur le territoire national. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de droit de succession, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de passeport français, ce n'est pas parce que, etc., que nous avons été condamnés. Nous avons été condamnés sur un élément qui est très net, le droit de voir sa filiation établie.
Non.
C'est un élément de l'identité.
Juste en deux mots, parce que c'est intéressant de continuer ce débat. À nouveau, il y a d'autres systèmes que la filiation, par exemple la kafala du droit musulman.
En deux mots,
la kafala en droit algérien, par exemple, l'adoption n'existe pas, donc le lien de filiation n'est pas reconnu. Mais il y a un système qui s'appelle la kafala, où de fait, un homme, par exemple, élève l'enfant comme si c'était le sien. Et tout le monde reconnaît que c'est un système qui est conforme à l'intérêt de l'enfant.
C'est la possession d'État, ce que vous décrivez.
Oui, voilà. Parce que donc, les juristes on n'a pas été condamné sur la filiation.
Mais comme la Cour l'a rappelé, le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d'être humain, ce qui inclut sa filiation.
Ça, ce sont les motifs, ce n'est pas le dispositif. Alors, on a été condamné, mais pas, on n'est pas obligé de suivre à la lettre toute la motivation comme si c'était des articles d'une loi.
Pour progresser dans notre débat, je vous propose d'entendre le compte-rendu qui a été fait par Corinne Audouin très récemment sur France Inter de la fameuse audience de la Cour de cassation où le procureur général Jean-Claude Marin s'est exprimé sur ce sujet.
C'est un exercice délicat auquel s'est livré Jean-Claude Marin. D'un côté, il faut bien prendre en compte la condamnation de la France par la CEDH au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. De l'autre, accepter une retranscription automatique des états civils d'enfants nés de GPA, ce serait pour le procureur général reconnaître implicitement cette pratique interdite en France. Jean-Claude Marin propose donc de ne transcrire que la filiation paternelle, si elle est prouvée. Exit donc les mères, qu'elles soient mères porteuses ou mères d'intention, une solution inconcevable pour l'avocat du défenseur des droits, maître Patrice Spinozzi.
Pour le moment, en l'état actuel, il n'est pas possible de transcrire partiellement un acte d'état civil. Donc la solution telle qu'elle est proposée par le procureur général de la Cour de cassation n'est pas conforme au texte en vigueur.
La marge est étroite pour la Cour de cassation qui devra, d'une façon ou d'une autre, ordonner la retranscription des états civils de ses enfants. Dominique Borren est le père de Kolia, né il y a 4 ans en Russie.
Et aujourd'hui, je suis confiant. Nous aurons ce que nous demandons, la justice. Les familles, elles existent, elles sont là, les enfants sont là. Aujourd'hui, je pense qu'on a peut-être l'espoir d'avoir une vraie réflexion sur ce que seront demain les familles en France.
Alors, Étienne Patou,
Oui, la réaction de Jean-Claude Marin permet de montrer qu'il y a effectivement une troisième voie entre la reconnaissance complète, enfin peut-être même une quatrième en plus de celle que Manuel Fabre-Magnan a proposée, entre la reconnaissance complète et l'absence complète de reconnaissance, qui est de scinder la filiation. C'est ce qu'avait laissé entendre la Cour européenne des droits de l'homme dans les motifs de sa décision. C'est-à-dire l'idée de dire on pourrait reconnaître la filiation à l'égard du père, qui est le père biologique, et ne pas le reconnaître à l'égard de la mère dite d'intention. Alors, c'est une solution évidemment possible qui a le défaut des solutions de compromis, c'est-à-dire tout le monde va être contre cette solution pour des raisons qui sont assez profondes et assez justifiées, parce qu'évidemment, elle fait du coup reposer la filiation entièrement sur le biologique, ce qui est quand même une certaine régression par rapport à l'état du droit. Elle a quand même le mérite, disons, d'essayer de proposer quelque chose face à deux solutions qui sont toutes les deux dans leur radicalité très difficiles à accepter, qui sont le refus complet ou l'acceptation complète. Voilà, est-ce que c'est une solution?
Alors,
c'est pas certain.
Une troisième voie, Anne-Marie Leroyer. Quelle solution voyez-vous à ce dilemme, effectivement, où pour l'instant on est bloqué entre deux voies qui sont trop rigides?
Moi, je trouve qu'il y a une voie qui n'est pas rigide. C'est la transcription de l'acte de naissance dans son intégralité, parce que ça respecte effectivement l'égalité des filiations maternelles et paternelles, en l'occurrence pour l'enfant, si tant est qu'il y a une père et une mère d'intention.
Que répondez-vous à l'argument de dire « oui, mais ça, c'est une reconnaissance de facto, il suffira d'aller à l'étranger » et surtout une inégalité, parce que les plus fortunés auront accès à cette voie de filiation auxquels n'auront pas accès les moins défavorisés, les plus défavorisés.
Là, il y a deux débats différents. Il y a la question de la filiation et de l'intérêt des enfants. Et encore une fois, je reste sur cette logique qui est que, pour moi, ça reste une sanction. Ça reste une sanction même, et on le voit, par l'attachement qu'ont les personnes qui sont très opposées à la gestation pour autrui de ne pas voir établie la filiation. On voit qu'elle est, pour eux, une sanction d'ordre symbolique. parce qu'ensuite, leur discours est de dire « mais de toute façon, l'intérêt de l'enfant est préservé parce que tous les effets de la filiation vont pouvoir finalement être admis sur le territoire national ». Et donc, si on dit ça, on se porte en contradiction, sauf à considérer qu'on y voit une sanction dissuasive et symbolique. Or, sur ce point-là, je suis évidemment tout à fait en désaccord, parce que le principe même de la sanction me paraît ne pas devoir reposer sur les enfants, et parce que l'opportunité de la sanction me paraît à la fois inefficace et désastreuse. Et donc, ce n'est pas sur la question de la filiation qu'on doit se poser quand on réfléchit sur la pratique de la gestation pour autrui, c'est sur la pratique de la gestation pour autrui elle-même, et ça, c'est un autre débat.
Alors, je voudrais qu'on l'aborde un peu, si tant est qu'il soit possible de l'aborder un peu, cette question, est-ce que finalement, il ne faut pas revenir aux justifications même de l'interdiction, Muriel Favre-Magnan, qu'est-ce qui vous gêne? Quels sont les arguments qui vous semblent les plus importants dans cette interdiction et donc du coup qui permettront de reprendre ensuite les effets atténués qu'on pourrait conférer à une transcription d'acte civil?
Alors quand même en deux mots, si vous me permettez de terminer sur la question précédente, quand même sur la solution qui s'annonce de la Cour de cassation, vous avez demandé son avis à Étienne Pateau tout à l'heure, je pense que c'est un compromis détestable. Et là-dessus, je pense qu'Anne-Marie et moi serons d'accord, c'est-à-dire c'est un déni total des femmes. Un déni total.
C'est-à-dire
la mère porteuse, elle est déniée. Il paraîtrait qu'on ait dit au moment de l'audience que la mère porteuse n'avait aucun lien avec l'enfant, ce qui quand même me sidère. Et je pense que toutes les femmes qui ont accouché doivent être sidérées de cette formulation. Donc la mère porteuse est déniée. La donneuse d'ovocytes, on n'en parle même pas éventuellement. Et la mère d'intention, oubliée. Donc ça veut dire, comprenez bien, que si on transcrit à demi-mesure, on aura des états civils avec un père et pas de mère. Donc,
non seulement
il y a ce qui a très
bien dit
Étienne.
Mais la mère qui sera perdante.
Ce qui a très bien dit Étienne déjà sur le tout génétique, alors qu'à d'autres moments, quand même, on nous expliquait que la filiation, c'était autre chose. D'ailleurs, on va se précipiter ensuite pour nous dire que la filiation du côté de la mère, ça sera uniquement l'intention. Donc, c'est un compromis détestable. Et là, je pense vraiment qu'Anne-Marie sera d'accord avec moi. C'est un déni des femmes, un déni des mères et un déni des femmes. Donc, c'est la solution la pire.
Alors, quelle solution trouver alors? Parce que ce qui est finalement...
Ce qui me gêne dans la GPA en général.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Oui, parce qu'il
y a deux choses. La principale chose, parce que là aussi, on compare avec la régulation de l'adoption, etc., c'est radicalement différent. L'adoption, vous avez un enfant qui est là et il faut lui trouver des parents. La GPA, même si vraiment je fais les efforts pour prendre les termes les plus doux possibles, les plus respectueux possibles, c'est quand même une commande d'un enfant qu'on va fabriquer. Donc c'est de la fabrication d'enfants sur commande. Vous voyez, je ne parle même pas de rémunération, au minimum. Donc ça veut dire que vous programmez un abandon de l'enfant par la mère porteuse.
Un abandon ou un don?
Un abandon au sens juridique. Justement, on est des juristes. Et vraiment, heureusement qu'il y a sur le service public des émissions où on prend le droit au
ça,
sérieux.
C'est bien vrai.
Et je m'en réjouis. Oui. Donc, nous sommes des juristes. Je vous donne la réglementation anglaise où la mère porteuse a 6 semaines pour décider qu'elle peut garder l'enfant si elle le souhaite. Et ça, on dit que c'est une réglementation satisfaisante de la gestation pour autrui. Donc, ça veut bien dire que c'est son enfant. Donc, techniquement, ça veut bien dire qu'elle l'abandonne quand elle le remet à autrui.
C'est
d'ailleurs,
ça.
Le délit pénal dans le code pénal, c'est l'incitation à l'abandon d'enfant. Donc, le mot d'abandon, il est incontestable juridiquement.
Anne-Marie Royer.
Juste sur cette question,
c'était
une question centrale de la gestation pour autrui, effectivement, qui on peut discuter de la terminologie juridique de l'abandon. C'était juste pour faire une incise en disant que cette réglementation particulière dont Muriel a dit qu'elle était généralement bien appréciée, ne l'est pas. Et dans tous les autres pays, enfin dans beaucoup d'autres pays où effectivement la gestation pour autrui est encadrée, il n'y a pas d'établissement de la filiation de l'enfant à l'égard de la mère porteuse. Je pense par exemple à la Grèce ou à beaucoup de pays des États-Unis,
mais
beaucoup d'États des
États-Unis,
mais uniquement à l'égard de la mère d'intention. Et précisément pour éviter juridiquement qu'on s'interroge sur cette forme juridique de transmission de l'enfant de la mère porteuse à la mère d'intention.
Et alors juste, je termine sur l'histoire de l'abandon. Ça n'est pas davantage éthique de dire que la mère d'intention prend l'enfant directement. Imaginez qu'on concrètement ce que ça signifie. Ça signifie que si la mère porteuse souhaite garder l'enfant parce qu'elle s'y est attachée, elle ne s'en rendait pas compte
elle
à l'avance.
Elle n'en a plus le droit.
Elle n'en a plus le droit. Ça veut dire qu'on va lui retirer de force un enfant qu'elle a porté 9 mois. Il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Quant à l'abandon, vous voulez changer les mots. Mais justement, dans le rapport d'Anne-Marie Leroyer sur la parentalité, il y a un passage excellent sur l'abandon, justement, même dans les cas d'adoption. Vous pouvez raconter toutes les histoires que vous voulez aux enfants. Souvent, les adultes disent « c'est pas grave, on va raconter à l'enfant ». Par exemple, insémination avec donneur, que celui qui a donné les gamètes n'est pas son père. Mais l'enfant, pour lui, c'est son père. Donc, vous ne pouvez pas forcer dans la tête de l'enfant les histoires qu'il va se raconter. Pour lui, la femme qui l'aura portée pendant 9 mois l'aura laissée. Et cette question de l'abandon, que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, elle ressurgira.
Étienne Bateau.
Je voulais juste revenir un tout petit peu sur ces problèmes de mobilité parce que je trouve les arguments de Muriel Fabre-Meillant extrêmement convaincants. Mais le problème est qu'ils sont convaincants en France, mais que de nombreux autres pays, y compris au sein de l'Union européenne, eux ont fait des choix qui sont des choix législatifs différents et qui sont en tant que choix tout aussi estimables que les nôtres. Or, on a parlé à l'instant des Royaumes-Unis, on a parlé de la Grèce. Dans un espace dans lequel la mobilité est au cœur de la construction européenne, on est forcément confronté à des mécanismes par lesquels il faut trouver une solution européenne. Or là, on risque assez vite d'être confronté. On a parlé de la Cour européenne des droits de l'homme, on n'a pas du tout parlé d'une autre cour importante qui est celle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui elle aussi influence très fortement, pousse très fortement pour la circulation des personnes, la mobilité, et des personnes avec leur situation juridique. Et là, c'est à ça que je voulais, pour ça que je voudrais revenir à ce que je disais tout à l'heure, où je pense que plutôt que de poser de façon raide la question de la reconnaissance, je pense qu'il faudrait s'interroger sur les conditions auxquelles on pourrait subordonner la circulation des situations juridiques. En Europe,
de façon à garantir,
un minimum d'intégration des parents dans l'état dans lequel s'est constituée la situation de la gestation.
Anne-Marie Royer, là-dessus.
Cette observation est extrêmement intéressante parce que la Grèce vient récemment, l'année dernière, de modifier les conditions pour l'accès à la gestation pour autrui en supprimant la condition de résidence qui peut désormais être temporaire. Cela signifie désormais, donc un couple de Français peut se rendre en Grèce, résider temporairement et donc recourir en Grèce à une mère porteuse sur place. Et donc voir un état civil établi pour l'enfant là-bas et revenir vivre en France. Et la question ici va se poser sous un angle différent de celui qui est posé actuellement, c'est qu'est-ce que va dire la Cour de justice sur cette reconnaissance de cet acte civil grec pour ses parents français au regard de la libre circulation des personnes.
C'est ça. Voilà un exemple très concret. Il y a deux principes qui entrent en contradiction. Comme disait sur cette chaîne cette semaine un conseiller à la Cour des comptes, le contrôle, c'est la gestion de nos contradictions. Enfin, je voudrais proposer d'écouter maintenant le reportage de Sophie Bobert qui est allée entendre Lucas Lomenec qui témoigne de son histoire.
Dès la naissance, on nous les a mis dans les bras, puisqu'il y en a deux, il y en a aussi ma petite fille, et c'est effectivement, j'ai ressenti tout de suite ce petit sentiment mystique dont on nous parle. Voilà, je me suis senti tout de suite investi par ces deux enfants. Alors, j'ai le désir d'être père depuis 20 ans, depuis que j'ai l'âge, enfin depuis 20 ans, donc ça va faire 15 ans maintenant. J'ai toujours eu un désir de famille, quelles que soient les périodes de ma sexualité. Je pense qu'un désir de famille n'est pas du tout lié à une sexualité. Avant, j'avais une vie hétérosexuelle, j'ai eu une vie bisexuelle. Aujourd'hui, je suis en couple avec un homme et j'ai une famille, et je suis une famille homoparentale. Voilà, je pense que le désir de famille n'a rien à voir avec la sexualité et c'est quelque chose, je pense, qui est ancré profondément dans les gens.
Votre compagnon, pour lui, c'était aussi évident que pour vous ?
Pas du tout.
Il a fallu le convaincre ?
Pas du tout. Lui, il voyait les difficultés, il voyait le poids de la société, le jugement. Au départ, il était pour une adoption. Moi, j'étais un peu plus partagé parce que pour l'adoption, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, si l'adoption avait été plus facile, sans doute aurions-nous adopté, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est moi qui lui ai montré les différentes possibilités qui existent aujourd'hui pour construire une famille, puisqu'elles sont multiples.
Mais l'adoption n'est pas interdite, contrairement à la GPA, en France en tout cas.
Le problème, c'est qu'en France, il y a très peu d'enfants candidats à l'adoption. Et malheureusement, beaucoup d'intermédiaires ont des positions idéologiques qui font que les enfants adoptés ne sont rarement placés dans les familles homoparentales.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement là-bas, à la naissance de vos deux enfants ?
Concrètement, nous avons attendu les actes de naissance au Mexique. Une fois que nous les avons eus, nous sommes dirigés vers le consulat de France, qui nous a clairement dit qu'il ne nous aiderait pas, qu'il ne ferait pas de transcription, qu'il ne donnerait pas de laissez-passer, qu'il ne donnerait pas de documents de voyage. Monsieur Martin nous a dit que nous avions contourné la loi. Alors, le contournement de la loi ou la fraude à la loi n'existe pas en droit français. Hein, c'est une vue de l'esprit. C'est très important de le comprendre. En France, on est soit coupable, soit disculpé, c'est-à-dire, mais il n'existe pas de fraude à la loi. Ça n'existe pas. Donc, nous avons précisé à M. Martin que si nous avions contourné la loi, lui ne la respectait pas, en tout cas, puisque par un arrêt du Conseil d'État de 2011, il devait nous délivrer des documents de voyage. Voilà. Et donc, nous nous sommes retrouvés bloqués, sans possibilité de retourner en France.
Vous l'avez vécu comment, cette période ? Est-ce que ce blocage vous a étonné ? Est-ce que vous avez eu peur de vous être embarqué dans un système trop long qui aurait pu se dégrader encore ?
Ça a été à la fois terrifiant et étonnant. Terrifiant de voir que des personnes qui sont censées représenter la loi se soustraient au droit. Ça, c'est vraiment terrifiant. De s'entendre dire qu'on ne va pas être aidé par les représentants de l'État à l'étranger, c'est aussi terrifiant. Mais au fond de moi, j'avais quand même confiance. Parce que j'ai confiance quand même en la justice, qui est vraiment indépendante, qui est complètement indépendante. Et on n'a qu'à voir les dernières condamnations. Les condamnations de l'État français, les condamnations des préfectures de police, les condamnations du procureur de Nantes. Le droit est dans notre sens. Et on ne parle pas que du droit européen, on parle du droit français aussi. Donc, c'était une question de temps, mais c'est quand même terrifiant de voir que des gens se permettent encore de se soustraire dans un état de droit avec des convictions. Nous avons subi des mots assez, assez rudes, oui. Comme quoi que nous allions nous prendre nos enfants, que nous ne sortirons jamais du Mexique, que c'était pas bien ce que nous avions fait. Enfin, il faut quand même avoir le cœur sacrément accroché pour entendre ce genre de choses.
Comment est-ce que la situation s'est débloquée après ces 15 jours, 3 semaines de blocage administratif hein ?
Les médiatisations a fortement aidé. Alexandre Hurwitz de l'association ADFH a interpellé M. Fabius aussi en direct sur votre radio. M. Fabius a pris connaissance et a donné instruction ensuite à M. Martin, le consul de France, de nous délivrer des laissez-passer.
On entend votre petite fille qui pleure. Vous voulez aller la chercher peut-être ?
Je vais la chercher.
Elle a quel âge maintenant ?
3 mois. Oui, 3 mois.
Et alors, est-ce qu'elle a ses papiers aujourd'hui ? Maintenant, vous avez réussi à rentrer du Mexique hein ?
Non, toujours pas. En fait, nous avons commencé les démarches. Mais il est évident, à la vue de ce qui se passe pour d'autres couples dans notre situation, que nous allons avoir des blocages. Premier blocage a été la reconnaissance de paternité en mairie, normalement qui est déclaratif en France. Donc l'officier de l'état civil doit se saisir de la déclaration. Et il semble que le procureur de Bobigny ait passé instruction de refuser toute déclaration de paternité. La lettre nous a été fournie par l'officier d'état civil de la mairie en disant qu'il ne fallait pas prendre de déclaration de paternité si la filiation était prouvée à l'étranger, ce qui est assez ahurissant.
Donc pas d'inscription à l'état civil, pas de livret de famille,
rien. Pas de livret de famille, pas d'inscription à l'état
civil. Elle n'existe pas, cette petite fille.
La filiation existe, prouvée à l'étranger, bien sûr. Normalement, si l'État français applique le droit, l'acte civil est reconnu en droit français. Mais ce qui est amusant, c'est aussi la contradiction. Nous avons obtenu un laissez-passer. Donc, c'est-à-dire que la filiation a été reconnue, que la nationalité de nos enfants a été reconnue. Donc, logiquement, nous ne devrions avoir aucun problème. C'est ça, c'est...
Sauf que là, vous ne pouvez pas voyager avec elle.
Pour l'instant, non.
Alors, Muriel Favre-Magnan, vous avez une question à poser, je crois, à votre collègue.
Exactement. Sur le système de la transcription, pour comprendre, est-ce que Anne-Marie souhaite transcrire toutes les GPA qui se sont pratiqués à l'étranger, ou alors dans les espèces, comme par exemple dans une autre affaire jugée par la Cour européenne des droits de l'homme, Paradiso, où le couple d'intention est poursuivi au pénal parce qu'il y avait un trafic d'enfants, est-ce qu'on transcrit là aussi ou non ?
Alors,
ou est-ce qu'on contrôle ?
Anne-Marie Leroyer.
Dans l'affaire Paradiso contre Italie, ce n'est pas tout à fait la question
non, mais
du
peu
trafic
importe,
d'enfants.
Est-ce qu'on transcrit tout ou non ? Est-ce qu'on transcrit toutes les GPA ?
je crois que la question se pose pas comme ça. C'est pas est-ce qu'on transcrit toutes les gestations pour autrui.
Est-ce
la
que question, si ça a été fait dans des conditions ignobles, accepte quand même de transcrire
pas...
en
oui,
France.
Oui, la question n'est pas d'accord, de savoir quelles sont les modalités. Oui, vous avez bien entendu. La question n'est pas parce qu'on retombe toujours dans la même dans le même questionnement. On peut pas partir de la manière dont la gestation pour autrui a été réalisée pour ensuite c'est toujours la même chose, en tirer des conséquences différentes sur l'enfant. Donc la question n'est pas de faire peser la sanction sur l'enfant.
Et l'inceste, on fait bien peser la sanction sur l'enfant.
Alors je n'ai pas répondu sur l'inceste tout à l'heure, mais puisque ça revient, on peut raisonner sur le cas de l'inceste. Imaginons demain que le frère de la mère, père de l'enfant, fasse un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de l'article 8, parce que notre loi interdit d'établir la filiation paternelle, si la filiation maternelle est préalablement établie dans ce cas-là. Que se passerait-il ? C'est un peu de la...
Du droit fiction.
Mais allons-y. Oui. Eh bien, probablement, on pourrait penser que la Cour européenne des droits de l'homme vienne nous dire qu'effectivement, l'interdiction d'établir la filiation à l'égard du père est un élément essentiel, porte atteinte à l'article 8, parce que c'est un élément essentiel de la vie privée de cet enfant. Après, la deuxième question, ce serait de savoir si cette atteinte est justifiée. Et on sait très bien qu'il peut y avoir une violation de l'article 8 qui soit justifiée en droit interne. C'est-à-dire que là, la Cour européenne se livre toujours à un contrôle de proportionnalité. Elle regarde si l'atteinte à la Convention, et là, il y a une violation de l'article 8, est justifiée. C'est l'exception, finalement, à l'article 8. Est-ce que c'est justifié ? Et c'est justifié si c'est prévu par la loi, si ça poursuit un but légitime et si c'est nécessaire dans une société démocratique. Et donc, la question qui serait alors posée à la Cour européenne, c'est de savoir si la prohibition, en l'occurrence de l'établissement de la filiation, fondée sur des empêchements à mariage, qui est une certaine traduction de l'inceste en droit, parce que le terme n'existe pas, constitue...
Il existe dans notre code pénal, depuis peu.
Constitue effectivement un but légitime, une atteinte justifiée, parce qu'elle poursuit un but légitime, nécessaire dans une société démocratique. Et là, je pense
Il y aurait donc un contrôle de la CEDH, ça ne serait pas automatique.
Ah non, mais surtout, je pense que la Cour européenne des droits de l'homme aurait à réfléchir sur le point de savoir si l'interdiction d'établir la filiation est justifiée justement par la volonté de traduire en droit une certaine prohibition de l'inceste. Alors, parce que c'est légitime et parce que ça répond à un but.
Revenons à la GPA, Étienne Patteau, vous vouliez ajouter quelque chose.
Je voudrais juste réagir très, très brièvement au très intéressant document qu'on vient d'entendre, enfin témoignage qu'on vient d'entendre. Juridiquement, ce qui a été dit est très approximatif,
mais je pense que ce n'est pas la question.
Voilà. Mais il y a un point que je trouve très, très intéressant, c'est l'aspect des documents de voyage. Mmh. Parce que là, il y a deux choses qui je trouve très significatives. C'est d'abord l'existence de tout cet infradroit que ceux qui sont un peu droits des étrangers connaissent bien, c'est-à-dire tout ce droit des bureaux, des pratiques administratives qui en réalité est souvent beaucoup, beaucoup plus déterminant dans la vie des gens que la réalité des situations juridiques. Et d'autre part, il y a ici un certain paradoxe parce qu'on bloque l'enfant, concrètement, on bloque l'enfant au Mexique. Or, du coup, ce qui se passe, c'est que cet enfant, forcément, va avoir une vie au Mexique et les parents ont une vie au Mexique puisqu'ils ne peuvent plus bouger. Et donc, dans une certaine façon, renforcer cette intégration avec l'ordre juridique dont on conteste pourtant qu'il se soit appliqué puisqu'on dit que ce sont des Français et donc ils n'ont rien à voir avec le droit mexicain. Donc il y a ici une sorte de paradoxe un peu étrange parce que finalement, au bout d'un moment, de toute façon, je pense qu'on devra plier devant l'ordre juridique ne pourra pas faire autrement que de plier devant la réalité de cet enfant. Ben oui, mais je pense que c'est pour ça qu'il me semble que la réponse par le refus de transcription n'est pas la bonne réponse, voie.
Je vous pose la question que je vais poser ensuite à tous nos autres invités. Quelle serait pour vous la bonne solution? Vers quoi devrions-nous nous orienter dans les années à venir? Une convention européenne.
La solution, à mon avis, immédiatement utopique, la plus utopique, ça serait une convention internationale sur le modèle de la convention de l'AN 1993 sur l'adoption.
C'est-à-dire
un mécanisme par lequel les États qui autorisent la gestation pour autrui s'engagent à respecter un certain nombre de conditions
minimal.
Et que, au terme de ces conditions, alors les autres États s'engagent à la reconnaître. Ça, je pense que ça serait.
Et donc, c'est une sorte d'organisation, de rationalisation de la coexistence des États européens. qui est la vocation de l'Union européenne.
Au-delà de l'Union européenne.
Je pense.
Parce que dans le cas de l'Union européenne, il y a des mécanismes, peut-être la possibilité d'avoir des solutions plus immédiates.
Muriel Favre-Magnan, alors quel est votre vous, comment est-ce qu'on peut se sortir autrement que par un maintien de l'interdiction, quitte à la faire supporter par les enfants?
Je ne vois pas comment on peut faire autre chose qu'interdire la gestation pour autrui.
Et ses effets.
En France, et ses effets. À nouveau, l'engrenage est apparu de façon très évidente dans notre discussion. Si on ratifie toutes les gestations pour autrui pratiquées à l'étranger, même dans des conditions ignobles, c'est la question que j'avais posée, si on les ratifie, on va voir des reportages maintenant sur les conditions ignobles, effectivement, de la gestation pour autrui, et on va nous dire qu'il vaut mieux réglementer la gestation pour autrui en France que d'accepter de valider. Voilà. Mais je vous dis, l'avenir tranchera. Juste en deux mots, je maintiens sur l'interdit. Il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que, par exemple, sur l'esclavage, ça n'est pas une remarque à l'emporte-pièce, mais c'est la nouvelle loi sur l'esclavage, excellente d'ailleurs, de la ministre de la Justice d'août 2013.
C'est-à-dire qu'il vous semble qu'il y a deux poids, deux mesures. On s'attendrit sur la marchandisation et l'exploitation du corps des femmes dans un cas et pas dans l'autre.
Oui, et c'est une pratique très grave. Je lisais sur l'histoire de l'eugénisme. Eh bien, à une période, c'était la mode, l'eugénisme, y compris jusque dans les années 80 dans les pays du Nord. Et on en est revenu. Je pense que l'avenir condamnera ces pratiques qui, à nouveau, au sens technique, sont de l'esclavage. Je termine juste parce que c'est un point juridique important. L'esclavage dans la nouvelle loi, c'est lorsqu'on exerce à l'encontre du personne, l'un des attributs du droit de propriété. Non pas seulement quand on est propriétaire d'autrui, mais un des attributs du droit de propriété. Donc un droit sur le corps de la personne, un droit d'usage. Donc ça rentre dans la définition technique. Tout le reste consiste à euphémiser ce qu'est la gestation pour autrui.
Oui, mais la réponse est pénale dans ce cas-là, pas civile.
Alors,
juste sur ce parallèle qui est extrêmement symbolique et qui me paraît assez contestable tout de même entre l'esclavage et la gestation pour autrui.
Parce que
ça n'a pas de commune mesure, quelles que soient les abominations que l'on peut faire en matière de gestation pour autrui. On a un passé avec l'esclavage, il y a une histoire.
Mais c'est la nouvelle définition de la loi, c'est la nouvelle définition.
Et on n'est pas du tout dans les mêmes perspectives. Maintenant, il y a autre chose sur laquelle on pourrait réfléchir. On pourrait discuter sans fin sur la question, effectivement, des abominations, de l'exploitation du corps de la femme, des plus pauvres,
si
des plus démunis, de la domination.
Une petite annotation, ce qui me frappe aujourd'hui, parce que c'est vrai dans pratiquement tous les domaines du droit, aujourd'hui, le poids de la contrainte ne porte plus sur le comportement, mais sur le consentement. Et dans le fond, la grande différence avec l'esclavage, c'est le consentement. C'est que la mère porteuse est consentante, sauf elle est consentante, mais c'est un consentement qui subit une très grosse pression de la pauvreté, de la misère, de l'argent, etc.
Oui, c'est toute la question. En réalité, le point sur lequel on est en discussion, et d'ailleurs vous avez parlé à plusieurs reprises de la question de la marchandisation du corps des femmes,
qui est pour moi le gros problème,
des enfants, il est vrai que c'est une formule qui est très souvent véhiculé comme ça, de propos en propos. Je voudrais juste insister sur le fait que cette formule me paraît aussi une formule dangereuse, parce que toutes les formules de ce type qu'on pourrait pratiquement écrire en un seul mot avec des tirets, est moralisatrice, c'est-à-dire qu'elle cache derrière un réel débat sur la place de l'argent dans le rapport du corps, sur l'exploitation des hommes par les hommes, des hommes par les femmes, des femmes par les hommes.
Oui.
Et en l'occurrence, effectivement, des rapports de domination qui se jouent dans le cadre de la gestation pour autrui.
Il est à titre onéreux sur l'usage, et pas n'importe lequel, du corps d'autrui.
Oui, mais c'est pas la question de la place de l'argent. On peut pas être occulté en disant il y a une marchandisation du corps des femmes. La question, c'est effectivement, quelle est la liberté de la femme qui s'engage dans ce processus ? Et est-ce que l'argent qui prend place dans ce processus peut être considéré comme une contrepartie honnête, par exemple, équitable et correspondant à un consentement librement donné pour la femme qui s'engage dans ce procédé ? Si on n'accepte pas de se poser cette question à la fois du consentement, à la fois de la générosité, à la fois de l'argent, et qu'on met tout dans une perspective de marchandisation, d'esclavagisme, etc., à mon avis, on ne porte pas le débat sur le bon aspect. Et juste pour terminer, on le sait, dans le rapport, on a discuté, nous sommes assez d'accord en réalité avec Muriel sur la question de l'interdiction de la gestation pour autrui, mais pour des raisons différentes. Et je ne vois pas comment on peut dire à la place d'une femme qui porterait un enfant pour autrui, qu'elle n'est pas capable ici de donner un consentement libre et de s'inscrire dans une perspective de don et de générosité.
Alors le dernier mot, Étienne Pateau.
Un mot, juste oui, pour dire que s'il y a des pratiques ignobles, il y a évidemment des pratiques ignobles, alors la sanction de ces pratiques ignobles doit se faire, mais sur le terrain pénal. Et là, ce que moi je trouve étrange, c'est de transposer ça sur le terrain civil. Et je crois que là, la question de la reconnaissance, finalement, n'est plus ou de la non-reconnaissance, n'est pas la bonne réponse à apporter aux sanctions de pratiques qui sont des pratiques d'esclavage moderne.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Les auditeurs auront pu constater que les débats entre juristes sont aussi de l'animation. Cette dernière émission a été préparée par Victor Massé de l'Épinay, Anne-Vanessa Prévost et Léonore Lanoé. À la technique, Nicolas Delmas et Xavier Atto. Et à la réalisation, la glorieuse Anne Kobilac. Merci à vous, chers auditeurs. Merci pour votre fidélité.